Je vais maintenant présenter Jacques Lascar. Jacques Lascar est né en 1955, il est astronome. Actuellement, il est directeur de recherche au CNRS. Il dirige avec Alain Chancinère l'équipe pluridisciplinaire Astronomie et Systèmes Dynamiques qui a été créée en 1992 au Bureau des Longitudes à l'Observatoire de Paris. Parmi ses spécialités, ses domaines de recherche sont la mécanique céleste, la dynamique du système solaire, la rotation des planètes, la théorie astronomique des paléoclimats, la dynamique des accélérateurs, les systèmes dynamiques en général. Il est membre correspondant de l'Académie des sciences. En 1994, il a reçu la médaille d'argent du CNRS et il est l'auteur, bien sûr, de nombreuses publications scientifiques spécialisées, mais également d'articles de vulgarisation. J'en citerai deux. Tout d'abord, la stabilité du système solaire, c'est, je pense, quelque chose en rapport avec notre conférence de ce soir, qui a été publié dans Chaos et déterminisme, aux éditions Point Seuil Paris, et La Lune et l'origine de l'homme, qui a été publié dans la revue Pour la Science, numéro 186, en avril 1993. Voilà, Jacques Lascar, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat de 20 minutes pourra commencer avec le public. Je vous remercie.
Merci. Merci pour cette introduction. Je voudrais d'abord dédier la conférence de ce soir à Bruno Manser, que j'ai rencontré dans le cadre de conférences un peu du même style, et qui, à paraître un homme assez extraordinaire, est aussi un ami, et qui a disparu depuis mai dernier. Pour ceux, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour ceux qui sont intéressés sur ces problèmes, ils peuvent regarder le site qui est cité ici. Le problème dont je vais parler, c'est cette recherche. Je vais parler de la recherche de périodicité dans le système solaire, parce que d'abord, les planètes, disons que les planètes, ce sont les astres errants. Et en fait, c'est vrai que si on déjà voir dans le ciel que certaines étoiles bougent, hein, que certains astres bougent, ce n'est pas complètement évident. Je ne sais pas si beaucoup l'ont remarqué dans l'auditoire. Et en plus, donc, ce qui a été cherché souvent, c'est de voir si on regarde la trace. Par exemple, ici, on voit la trace de Vénus. Eh bien, c'est pas très simple. On a des fois des rétrogradations comme ça. Donc, ce n'était pas évident de trouver de la régularité dans ces mouvements. Il y a eu d'abord une grande recherche de régularité, ici aussi Mars, on ne le voit pas très bien ici, mais pareil, le mouvement il est presque circulaire, mais pas complètement, donc il y a eu tout un problème d'arriver à faire des prédictions, et ça a été fait par Ptolémée, hein, ça a été la représentation quasi-périodique de Ptolémée, donc Ptolémée est arrivé avec des systèmes de... comment on fait pour... Ah, voilà. D'accord. On va finir par... Donc, Ptolémée, par ses systèmes d'épicycle, finalement, il donnait une représentation. C'était quelque chose qui n'y avait pas de physique. C'était juste une représentation phénoménologique du mouvement des planètes, mais ça en rendait relativement bien compte par une combinaison de mouvements circulaires uniformes. Ces mouvements circulaires uniformes qui étaient considérés comme parfaits, et donc pouvant être les seuls qui pouvaient représenter le mouvement des astres. Alors ensuite, bon, je vais aller très vite sur les aspects historiques, parce que... Et ensuite, Kepler. Alors Kepler, donc, Kepler, c'est le... Donc 1609, donc déjà, il faut d'abord passer à mettre le Soleil au milieu, hein, et puis faire les planètes tourner autour du Soleil, ça c'est Copernic. Et Kepler va faire un gros changement, il va abandonner les mouvements circulaires uniformes, les mouvements parfaits, au profit de mouvements elliptiques, mais il va retrouver quelque chose, finalement, une régularité qui est encore plus forte que dans les mouvements de Ptolémée, puisque lui va avoir des mouvements périodiques. Les planètes, maintenant, se déplacent sur des ellipses, et non plus des cercles, mais fixes. C'est-à-dire qu'une fois que la planète a fait un tour, a fait une révolution, elle se retrouve exactement au même endroit. Donc là, toutes les orbites des planètes sont périodiques. On a exactement, après une révolution, chaque révolution est exactement similaire à la précédente. On n'a pas de problème de stabilité. En temps infini, rien ne va bouger. Tout va rester identique. Alors, comme je vais en parler par la suite, ça donne l'occasion donc de parler de ce qu'est l'excentricité. L'excentricité, finalement, vous savez, pour faire une ellipse, il faut deux piquets et puis une ficelle. La longueur de la ficelle, c'est la même chose que la taille de l'ellipse, c'est le demi-grand axe. Et puis la distance entre les deux piquets, c'est l'excentricité. Si l'excentricité est nulle, on a un cercle. Si l'excentricité est égale à 1, on a quelque chose, on a un mouvement rectiligne. Dans le mouvement de Kepler, donc tout est fixe, seule la planète bouge. Il y a une seule coordonnée. Alors, ça, c'est pas. Ah oui, il n'y a pas moyen de régler, là. C'est pas plus net que ça, c'est ça. Bon. Donc, dans le. Je vais passer de l'autre côté, là. Voilà, c'est peut-être plus net quand même. Donc, dans ce mouvement, la planète, donc l'ellipse est fixe. Alors, l'ellipse est décrite par quoi ? Elle est décrite par sa taille, son demi-grand axe. Donc, l'excentricité, c'est la distance des deux foyers. L'inclinaison, ça, c'est quand on veut décrire la planète dans l'espace. Il faut donner un plan de référence qui est donné par la longitude du nœud et l'inclinaison. Et puis, il faut donner l'orientation dans le plan par la longitude du périhélie. Donc, tout ça, c'est fixe. Et la seule chose qui bouge, c'est l'air balayé, qui bouge linéairement par rapport au temps. Donc, c'est une simple formule. Donc, ça, c'est encore quelque chose de phénoménologique. Il n'y a pas de physique ici. C'est purement un autre modèle, différent de celui de Ptolémée, mais qui rend compte aussi des mouvements apparents des planètes. Et puis, il va y avoir un problème qui va arriver avec Newton, parce que Newton va introduire la physique là-dedans. Il va introduire la loi de gravitation universelle, donc ça c'est une centaine d'années après. Alors, cette loi de gravitation universelle, si on a une planète attirée par le Soleil, on retrouve les lois de Kepler, donc ça c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais la grosse différence entre la loi de Newton et les lois de Kepler, c'est que la loi de Newton, elle est censée s'appliquer à tout, elle est censée s'appliquer aussi bien à une pomme qui tombe d'un arbre sur la Terre qu'à des mouvements de planètes. Donc Jupiter est attiré par le Soleil, mais comme on a plusieurs planètes, les planètes vont s'attirer entre elles. Et Jupiter va être attiré par Saturne. Donc, dès qu'on a la loi de Newton, on sait deux choses. On sait bien que si on n'avait qu'une planète, on aurait les lois de Kepler, mais on sait aussi que le vrai mouvement, ce n'est sûrement pas le mouvement de Kepler, puisqu'on a la perturbation entre ces planètes. Et dès l'époque de Newton, va se poser la question qui est savoir si ces perturbations sont suffisantes pour détruire la stabilité du système solaire. Il y avait deux questions. La première, c'est est-ce que la loi de Newton rend bien compte du mouvement des planètes ? La deuxième, est-ce que les perturbations entre les planètes vont détruire la stabilité du système solaire ? Et en fait, pour Newton, Newton pensait que le système n'était pas stable, qu'il se déformait à cause de ces perturbations et qu'il fallait que Dieu vienne de temps en temps pour remettre les planètes en place. Donc cette loi de Newton n'était finalement qu'un principe économique pour que Dieu ne soit pas toujours à pousser les planètes. Il les laisse aller avec la loi de Newton et il revient que de temps en temps pour les bouger. Et ça va être une grande question scientifique pour le XVIIIe siècle, d'autant plus que des observations laissaient entendre que Jupiter se rapprochait du Soleil et Saturne s'en éloignait. C'était les observations transmises par Ptolémée, en fait, des observations faites par les Chaldéens, observations du genre Saturne a été observé deux doigts en dessous de Gamma de la Vierge, en l'an 223 avant Jésus-Christ. Alors, ce genre d'observation, c'est très imprécis, mais disons que comme c'était sur une grande période de temps, si on comparait par rapport aux observations faites au XVIe siècle et ensuite au XVIIe siècle, on avait des variations de période des planètes, et ces variations de période, par la troisième loi de Kepler, ça donne des variations de taille des orbites. Et si on extrapole, on trouvait que c'était une forte instabilité où les planètes devaient être, Jupiter et Saturne, devaient être ensemble 6 millions d'années auparavant. Donc on avait une indication d'instabilité. On va avoir beaucoup de travaux au XVIIIe siècle comme de ce genre, recherche sur les irrégularités du mouvement de Jupiter et Saturne par Euler en 1752. Mais il va falloir attendre Laplace avec sa, et Lagrange avec sa théorie de Jupiter et Saturne pour vraiment avoir une première réponse à ce problème. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est... Disons que la loi de Newton, elle s'exprime très bien, la distance s'exprime très bien si on représente les coordonnées des... Calculer une distance, c'est très facile dans l'espace rectangulaire, dans l'espace euclidien. Et on a ici, on a les positions et les vitesses, donc ça, on peut très bien calculer la distance. Seulement, si on écrit les équations comme ça, c'est insurmontable, on n'arrive à rien, on n'arrive pas du tout à manipuler ces équations. Et la grande avancée, finalement, de Lagrange, ça va être de se dire, au lieu d'utiliser ces six quantités-là, qui sont les positions et les vitesses, on va utiliser les six quantités qui définissent le mouvement de Kepler. Donc, on va utiliser les éléments qui définissent, qui sont fixes dans le mouvement de Kepler. On va finalement séparer le problème entre le problème juste d'une planète attirée par le Soleil et puis le problème de la perturbation entre les planètes. Donc on va écrire, en écrivant finalement, en faisant juste un changement de variable, de 6 variables ici en 6 nouvelles variables, on a quelque chose où toutes ces quantités sont constantes si on oublie cette perturbation, et ils vont juste écrire ensuite la variation de ces éléments due aux perturbations entre les planètes. C'est ce qu'on appelle la méthode de variation des constantes de Lagrange. Et c'est cette méthode qui va permettre à Laplace de vraiment faire les calculs dans le cadre du système solaire et de ce système de Jupiter et Saturne. Et les résultats, eh bien, ça va être des résultats de stabilité. On est à chercher de la régularité. On aimerait bien quand même que le système soit régulier. Donc le premier résultat, c'est de montrer qu'en fait, en moyenne, ces orbites des planètes ne bougent pas, c'est-à-dire elles ne diminuent pas ou n'augmentent pas comme on pouvait le croire. Et finalement, si on a juste des petites oscillations de ce genre, du demi-grand axe, et que si on avait eu l'impression que dans l'histoire, on avait une augmentation de ce demi-grand axe, de cette taille des ellipses, c'était uniquement parce qu'on avait quand même un terme de période de 900 ans entre Jupiter et Saturne, due à une quasi-commensurabilité entre les deux mouvements, et qui a quelques degrés d'amplitude, et ça laissait croire qu'on avait un terme séculaire. Mais en fait, ce n'était qu'un terme périodique, il n'allait pas continuer de croître comme ça indéfiniment. Donc ça, premier résultat de stabilité de Laplace. Alors, les orbites donc n'augmentent pas ou ne diminuent pas. On ne va pas avoir de collision dans le système de cette manière-là. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour assurer la stabilité du système solaire, parce que si vous avez deux planètes, comme ici la Terre et Mars, avec des orbites circulaires, eh bien, une unité astronomique pour la Terre, 1,5 unité astronomique pour Mars. Si je change juste l'excentricité des orbites, donc je change juste la distance des foyers des ellipses, sans changer la taille des ellipses, eh bien, je peux arriver à des collisions. Il suffit que je donne 0,1 comme excentricité à la Terre, 0,3 comme excentricité à Mars. C'est ce qui est fait dans ce dessin. Et là, on a possibilité de collision. Donc, pour avoir stabilité du système, il faut aussi contrôler les variations des excentricités. Et ça va être le deuxième résultat de... Je le mets là en mémoire. Hein, le deuxième résultat de Laplace. Il va écrire de la même manière la variation des excentricités des planètes. Alors, comment il calcule cette variation des excentricités ? Il va écrire de la même manière un système... Je vous ai dit, finalement, l'excentricité, c'est la distance entre les deux foyers. Eh bien, il va écrire un système d'équations qui fait intervenir directement la position du deuxième foyer de l'ellipse. Et cette position, elle est définie par la distance au premier, donc l'excentricité, et puis l'angle ici, la longitude du périhélie. Et donc, quand on écrit ça sous cette forme-là, dans ce plan considéré comme le plan complexe, on écrit directement les équations qui donnent ce mouvement sous l'influence des perturbations des autres planètes. Et on se retrouve avec un système qui se dit, c'est un système d'équations linéaires à coefficients constants, donc c'était difficile à résoudre à l'époque. Maintenant, n'importe quel étudiant en première année de fac sait résoudre ce type de système d'équations. C'est un peu compliqué quand même, parce que quand on a 8 planètes, on ne sait pas le faire à la main, il faut diagonaliser cette matrice, et ça, on peut le faire numériquement assez facilement, mais à l'époque, c'était plus dur. Avec 2 planètes, en prenant juste Jupiter et Saturne, ça va. Alors, le résultat, ce que dépend un peu de ce qu'on appelle les valeurs propres de cette matrice. Et ce que Laplace a pu montrer, c'est qu'elles étaient tout le temps purement imaginaires. Et dans ce cas-là, on a un mouvement quasi-périodique. Donc, mouvement quasi-périodique, ça veut dire que c'est le mouvement de ce deuxième foyer, ici, va avoir un peu un mouvement comme le mouvement d'épicycle des planètes. Donc, on va avoir une combinaison de mouvements circulaires uniformes. Alors, vous voyez maintenant, et c'est avec autant de combinaisons que de planètes. Et alors, ce qui est important, c'est que donc le deuxième foyer, maintenant, n'est plus fixe, comme dans le mouvement de Kepler. Le deuxième foyer va bouger, il va tourner. Donc, l'orbite va tourner dans le plan, c'est ce qu'on appelle, elle va tourner lentement, avec des périodes de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années à quelques millions d'années. Et ça va tourner lentement dans le plan, donc ça, c'est pas très grave, mais ça va aussi changer. Vous voyez bien que quand le foyer est ici, il se rapproche du premier. Donc à ce moment-là, l'orbite est plus circulaire. Quand il est ici, il est plus allongé. Donc on a une déformation, allongement, rétrécissement de l'orbite, et puis en même temps, elle tourne dans le plan. Et de même, le plan de l'orbite va tourner dans l'espace. Donc là, on va avoir des changements. On commence à avoir non plus, on a des changements dans les orbites. Ce n'est plus un mouvement de planète sur l'orbite, mais c'est les orbites qui commencent à bouger à cause de ces perturbations. Alors ça va entraîner des choses. Par exemple, pour la Terre, ici, voilà les variations de l'excentricité de la Terre. Ça va de 0 à 0,06. Donc ça, c'est dû à ces combinaisons de mouvements circulaires uniformes. Maintenant, ça change, cette excentricité. Alors, je vous rappelle ici, j'ai laissé ici, mais si l'excentricité vaut 0,1 pour la Terre et 0,3 pour Mars, on a collision. Ici, je vous donne tout de suite une bonne nouvelle. On n'y arrive pas, parce que là, on arrive juste à 0,06. Et pour Mars, ça c'est pour Mars, on arrive, voilà les variations d'excentricité, on arrive à 0,14, 0,15. Donc, en fait, deuxième résultat de stabilité, on n'a pas... Les orbites, les excentricités bougent, elles bougent, les orbites bougent, mais elles ne bougent pas suffisamment pour qu'on puisse avoir collision. Remarquez, on n'est pas loin, on est à la moitié du chemin seulement de la collision. Ça donne quand même des ordres de grandeur. Si je vous dis maintenant que l'excentricité arrive à 0,3, vous savez que ça fait gros pour une excentricité de Mars. Donc, mais ce n'est pas le cas, c'est 0,14. Donc ça... Et en plus, ce mouvement est régulier. Il est régulier parce qu'il est combinaison de mouvements circulaires uniformes. Donc ça veut dire que si on veut prévoir le mouvement sur un temps très long, eh bien, on écrit tout simplement cette somme de termes sinusoïdaux et puis on remplace le temps par la valeur. Et c'est ça, ce mouvement régulier. Donc ça, c'est le résultat de Laplace. Et Laplace pensait qu'à ce moment-là, il suffisait de raffiner, de calculer toutes ces constantes avec plus de précision, et puis on aurait des solutions qui seraient de mieux en mieux, de plus en plus précises. Alors ça va durer, ça va se faire pendant le XVIIIe siècle, et il va y avoir en particulier, Le Verrier va calculer, en 1856, il va calculer pour l'ensemble des planètes un petit peu ces variations, et donc voir un peu les variations de toutes ces planètes. Des orbites de toutes ces planètes. Alors, une des conséquences qui a été comprise assez tôt, dès les calculs de Le Verrier, c'est de se dire que si l'orbite de la Terre bouge, eh bien, ça induira des changements à la surface de la Terre. Ça induira éventuellement des changements climatiques à la surface de la Terre. Et ça, c'est la théorie. Ça a commencé par Kroll, la théorie des climats, des paléoclimats. Et ça a commencé par Kroll, qui s'est basé, en fait, vers 1870, qui s'est basé sur les calculs de ce type faits par Le Verrier. Alors là, je vais parler de ça un petit peu. Et ça, il faut penser, en fait, l'insolation, donc le climat sur Terre, dépend de la quantité de soleil reçue à la surface de la Terre. Et la quantité de soleil reçue à la surface de la Terre, ça va dépendre de la position de la Terre par rapport au soleil et puis de l'orientation de l'axe de la Terre. Alors ça, ça va nous donner, ces calculs vont nous donner la position de la Terre par rapport au soleil, mais il faut aussi calculer la variation de l'axe de rotation de la Terre. Alors l'axe de rotation de la Terre, en fait, quel est le mouvement le plus évident de l'axe de rotation de la Terre ? Eh bien, vous avez sans doute, même si on n'avait pas les planètes, imaginons qu'on n'ait pas les planètes, mais qu'on ait juste la Lune et le Soleil. La Lune et le Soleil exercent ce qu'on appelle un couple sur le bourrelet équatorial de la Terre, et ça, ça fait tourner l'axe de la Terre. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et en fait, c'est un phénomène c'est un phénomène important, c'est un phénomène qui peut se visualiser assez simplement. Il suffit de prendre quelque chose d'aplati, hein, pas complètement sphérique, comme ce gyroscope. Et donc là, ça c'est l'aplatissement, c'est censé schématiser l'aplatissement de la Terre. Et en fait, on ne va pas avoir le couple exercé, on ne va pas le mettre dans le champ de gravitation du Soleil et de la Lune, mais c'est tout simplement le champ de gravitation de la Terre. Alors là, je vais faire une simulation. D'habitude, on fait des simulations numériques sur ordinateur. Bon, là, ça, c'est beaucoup plus incertain. D'ailleurs, les ordinateurs, je ne sais pas si vous avez vu, les simulations sur ordinateur, souvent, ça ne marche pas. Mais là, c'est beaucoup plus high-tech, alors ça a des chances aussi de ne pas marcher. On va voir. Enfin, je viens de changer la ficelle. Donc voilà, j'ai lancé la Terre. Et voilà le mouvement. Ça, c'est le mouvement de précession de l'axe de la Terre. Donc dans le cas de la Terre, la période de ce mouvement est de l'ordre de 26 000 ans. Là, ce que vous entendez, le bruit, c'est en fait ce qu'on appelle des résonances. Donc, le mouvement de l'axe de la Terre, c'est exactement du même type. Et si on n'avait que le Soleil et la Lune, on aurait juste un mouvement qui serait un mouvement à régulier, à obliquité constante. L'obliquité, c'est la distance entre la normale au plan de l'orbite et puis la... C'est magique, hein ? Voilà. La perpendiculaire au plan de l'orbite et puis la direction du... Et puis l'axe de la Terre, donc ça c'est 23 degrés, hein, vous le savez. Et donc on aurait juste ce mouvement qui serait constant, uniforme. Et l'axe décrirait ce cercle bien parfait qui fait que l'étoile, le pôle Nord, n'est pas toujours fixé vers l'étoile polaire, mais va lentement tourner. Alors bien sûr, l'effet de ce mouvement de cet axe va changer la date des saisons. Quand je dis la date des saisons, je le dis par rapport à l'orbite de la Terre. Actuellement, l'hiver a lieu quand on est le plus près du Soleil. Le fait qu'on soit en hiver ou en été, ça dépend de l'inclinaison de l'axe de la Terre. En fait, c'est suivant qu'on a le soleil rasant ou le soleil plus haut dans le ciel. Donc là, actuellement, on est au plus près du soleil le 4 janvier. Et puis on est au plus loin le 22 juin, enfin en été. Mais vous comprenez, donc quand l'axe de la Terre bouge, quand on a cette précession des équinoxes, finalement, on change la date à laquelle on est au plus près du soleil. Et si on arrive, par exemple, en été au moment où on est au plus près du Soleil, l'été dans l'hémisphère nord sera plus chaud. Donc on peut augmenter ou diminuer comme ça le contraste des saisons avec la précession des équinoxes. Maintenant, ça c'est ce qui se passerait s'il y avait juste le Soleil, la Lune et la Terre. Donc on aurait déjà des changements de ce type. Maintenant, on a cet effet-là. Alors cet effet-là, c'est le fait que dû aux interactions gravitationnelles entre les planètes, toutes les orbites des planètes bougent. Elles se déforment, elles deviennent plus excentriques, elles bougent, le plan de l'orbite aussi bouge. Et tout ça, eh ben, ça va faire un forçage, ça va secouer un peu l'axe de la Terre. Pas beaucoup, pas beaucoup, ça va juste faire des variations donc, de l'obliquité. Hein, ce que l'obliquité, je vous rappelle ce que j'appelle l'obliquité, c'est tout simplement l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à la normale à l'orbite, hein, à la perpendiculaire à l'orbite. Si l'obliquité était zéro, il n'y aurait pas de saison. Ce serait l'hiver et l'été, ce serait toujours pareil. Donc actuellement, c'est 23 degrés. Et donc l'effet, ça va être de secouer un peu cet axe et de faire des toutes petites variations. Elles sont décrites ici sur 1 million d'années. Vous voyez, ça oscille pas beaucoup. C'est en degrés, ça oscille d'un degré et demi autour de cette valeur de 23 degrés. Donc si je le faisais ici, vous le verriez à peine. Mais ça a un effet, c'est que ça induit des variations de 20% dans l'insolation reçue en été aux hautes latitudes. Alors pourquoi les hautes latitudes? Parce que les hautes latitudes, c'est la limite des calottes polaires. Et si la glace accumulée pendant l'hiver, si l'été n'est pas assez chaud, la glace accumulée pendant l'hiver ne va pas fondre. Et donc, les glaces vont s'accumuler, ça va être froid, ça va être blanc, ça va réfléchir plus le soleil, et on va comme ça arriver dans un état de plus en plus froid, ça va être une période glaciaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de Milankovitch des paléoclimats, c'est dû à Milutin Milankovitch dans les années 1940-1950. Alors, donc, comment vérifier une telle théorie? Eh bien, on peut très bien, à partir de ce que je vous ai dit, calculer ces variations d'obliquité. On calcule d'abord le mouvement des planètes sur des millions d'années. On calcule ces variations d'obliquité. On peut calculer donc ces variations d'insolation. Et il suffit de comparer aux enregistrements de température dans les derniers millions d'années. Alors le seul problème, c'est que les dinosaures n'ont pas laissé de stations météo qui ont donné les températures régulièrement. Mais il y a quand même le moyen de le faire avec différents indicateurs. Et en particulier, un de ces indicateurs a été déterminant pour ces calculs, c'est la détermination du rapport oxygène 18 sur oxygène 16 alors dans les océans. Alors comment ça se fait? Eh bien, dans l'eau, on a aussi bien de l'oxygène 18 que de l'oxygène 16. Quand l'eau des océans s'évapore, eh bien, c'est le plus léger qui s'évapore surtout, c'est l'oxygène 16. Quand il se transporte vers les calottes polaires, le 18, il a plutôt tendance à tomber. Et finalement, la calotte de glace a plutôt moins d'oxygène 18. Donc là, quand on a une grosse calotte polaire, qu'est-ce qu'on a? On a retiré de l'oxygène 16 de l'océan. Donc dans l'océan, on se retrouve avec une concentration plus forte en oxygène 18. Maintenant, dans l'océan, il y a des petites bêtes. Et ces petites bêtes font des coquilles. Et ces coquilles sont faites en carbonate. Donc ces carbonates contiennent de l'oxygène. Donc au moment où la petite bête vit, elle utilise de l'oxygène de l'océan et pour faire sa coquille. Ensuite, elle meurt, elle se dépose au fond des océans. Le squelette se dépose au fond des océans. Et finalement, qu'est-ce qu'on a là? On a un témoin de la teneur en oxygène 18 de l'océan de l'époque où vivait la bête, et donc de l'épaisseur de la calotte de glace à l'époque, donc de la température globale de la Terre à l'époque. Et on va quand même, comme ça, retrouver ces variations de température. On va retrouver ceci en faisant des forages donc, dans les sédiments marins. Donc ça, c'est ce type de forage. Et là, vous voyez, c'est la variation d'oxygène 18 en fonction du temps. Ça, c'est sur 2 millions d'années. Il faut retrouver après. Je vais vous en montrer un autre indicateur. Alors maintenant, et ceci se corrèle très bien avec ces variations d'insolation dont je vous parlais tout à l'heure. Pour vous donner un exemple, voilà une étude très récente, c'est un autre indicateur. Mais vous voyez que la courbe, ici, c'est la mesure de cet indicateur, un peu du même genre, qui est censé mesurer l'aridité. Et ceci, c'est directement le calcul d'insolation, donc pour les époques de 2,4 millions à 2,9 millions ans. Donc, et en fait, ça correspond vraiment extrêmement bien. C'est vraiment assez impressionnant de voir cette corrélation. Donc ça, ça veut dire... Alors du coup, les géologues se sont dit, ben voilà une manière de trouver une échelle absolue pour l'échelle géologique, une échelle géologique absolue. Il suffit de faire la corrélation entre ces carottes de sédiments, de retrouver aussi bien dans ces carottes de sédiments des choses qui sont globales sur la Terre, comme des inversions de pôles magnétiques. On va retrouver comme ça une échelle absolue pour la géologie, au moins dans les dernières centaines de millions d'années. La demande des géologues, c'était de dire, eh ben, donnez-nous une solution le plus précisément possible sur le temps le plus reculé. Alors, pour faire ça, eh bien, le seul problème, c'est que quand on fait ce calcul sur un temps reculé, sur une grande période de temps, eh bien, on s'aperçoit que le mouvement en fait, des planètes n'est pas régulier, mais est chaotique. Hein, sur l'ensemble du système solaire, le mouvement est chaotique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle une divergence exponentielle des trajectoires. On va avoir... de ce genre-là. Hein, c'est-à-dire que si je prends... je suppose que j'ai une petite erreur au début ou une petite incertitude au début dans ma solution de 15 mètres, mettons, sur la position de la Terre. Eh bien, cette erreur de 15 mètres... au bout de 10 millions d'années, elle ne vaut que 150 mètres. Le problème, c'est que tous les 10 millions d'années, il faut rajouter un zéro à l'erreur. Elle est multipliée par 10 tous les 10 millions d'années. Donc 10 millions d'années, ça fait 150 mètres. 20 millions d'années, ça fait 1,5 km. Et 100 millions d'années, ça fait 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Donc en gros, on ne sait plus du tout où est la planète. En fait, ce qu'on a perdu surtout, c'est l'orientation de l'orbite de la Terre. Ça ne veut pas dire que la Terre s'est cognée avec le Soleil, mais ça veut dire qu'on ne sait plus du tout comment est orientée l'orbite de la Terre. Alors, si on ne sait plus comment est orientée l'orbite de la Terre, ça veut aussi bien dire que dans les combinaisons, qu'on ne saura pas non plus si elle est dans une position de petite excentricité ou de grande excentricité, et donc on aura perdu aussi l'échelle de temps pour arriver à faire ce genre de corrélation et à définir cette échelle absolue. Et ça, c'est quelque chose qui vient vraiment du problème. C'est vraiment, si vous voulez, un exemple de mouvement chaotique. Pour se le représenter, vous pouvez prendre un pendule rigide. Hein, vous prenez un pendule rigide, vous avez des oscillations, donc une baguette, vous avez des oscillations qui sont stables ici, puis vous avez une trajectoire qui est en fait la position instable, qui correspond à la position instable qui est au-dessus. Et cette position instable, vous voyez bien, donc vous avez une trajectoire qui part de l'un et qui revient exactement de l'autre côté, en un temps très grand, mais il ne faut presque rien pour faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est ce genre de phénomène qui se passe. On a ce qu'on appelle des résonances. Chaque fois qu'on a on a une orbite qui tourne trois fois quand l'autre tourne deux fois, enfin des choses de ce style-là. Ce n'est pas des résonances entre les planètes, entre les mouvements des planètes, mais ce sont des résonances entre les très lents mouvements de précession des orbites. Et chaque fois qu'on a ce type de phénomène, de résonance, on a quelque chose équivalent à ce mouvement de pendule. Et donc, dès qu'on passe près de ce genre de position, on peut passer d'un côté ou de l'autre par un tout petit changement. Et c'est de là que vient cette divergence exponentielle des orbites. Et ça, c'est irrémédiable, parce que là, c'est 15 mètres d'erreur. Mais imaginez qu'on fasse des très grands progrès, que dans 200 ans ou dans 1000 ans, au lieu d'avoir 15 mètres d'incertitude, on ait 15 microns. Ça veut dire aussi qu'on tient compte dans le modèle de tout ce qui donne des incertitudes de l'ordre du micron, hein, ce qui est énorme. Eh bien, on ne changera pas grand-chose ici, parce que la seule chose qu'on changera, c'est qu'au lieu d'être une erreur comme ça au bout de 100 millions d'années, on aura la même erreur au bout de 160 millions d'années. Donc on ne sera pas tellement allé plus loin, on est très loin des 5 milliards d'années du système solaire. Ça, c'est... Mais en fait, on peut quand même s'amuser à regarder ce qui se passe. Là, je reviens au mouvement des planètes un petit peu. On peut quand même s'amuser à regarder ce qui se passe. Donc maintenant, on se retrouve avec un nouveau problème. On se retrouve avec un problème qui est le fait qu'on ne peut plus répondre au problème de la stabilité du système solaire comme l'entendait Laplace. Laplace, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait pris la partie linéaire des équations, donc il n'avait pas considéré ces problèmes de résonance, il n'avait pas considéré ces phénomènes non linéaires, il avait ce qu'on appelle tronqué les équations, il avait pris juste le début. Et finalement, maintenant, ce que Laplace disait, c'est-à-dire que les solutions ne pouvaient pas se cogner, eh bien, il faut le revoir, parce que finalement, maintenant, sur 5 milliards d'années, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Est-ce que les orbites des planètes peuvent se cogner sur 5 milliards d'années ? Maintenant, je vous dis que si on fait un calcul avec l'ordinateur le plus précis du monde, n'importe quoi, eh bien, au bout de 100 millions d'années, la solution qu'on calcule sera sûrement différente de la solution réelle du système. Alors, ça pose un problème, parce que comment faire pour voir l'évolution sur 5 milliards d'années ? Ben, on peut quand même calculer. Voilà, l'évolution sur même 25 milliards d'années des orbites des planètes. Alors là, ce qui est tracé ici, ce n'est pas vraiment la variation, donc c'est pareil, c'est l'excentricité, comme ici, mais je n'ai pas tracé l'excentricité, là c'est sur 3 millions d'années avant, 3 millions d'années après. Si j'avais tracé l'excentricité comme ça, vous n'aurez rien vu. Ça varie entre 0 et cette valeur-là. En fait, ce qui est tracé, c'est juste le maximum ici de ces valeurs. On veut savoir jusqu'à où ça peut aller. Donc là, c'est en milliards d'années maintenant. Donc l'âge du système solaire, hein, c'est juste ce petit bout-là. Et ce qu'on voit, c'est que pour toutes les grosses planètes, les planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, eh bien là, on a des lignes droites. Et ça, ça veut dire en fait que le mouvement est très régulier. Ça veut dire qu'on a vraiment une oscillation très régulière du mouvement. Donc cette oscillation très régulière, si on prend son maximum, on a une droite. Donc le mouvement des grosses planètes est régulier, ou pratiquement régulier, même sur des très longues échelles de temps. Par contre, si vous voyez Mars, Vénus, la Terre, alors Vénus et la Terre bougent un peu, mais pas trop, mais Mars et Mercure bougent énormément. Alors, on peut se reposer la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on arrive à faire cogner Mars et la Terre ? Eh bien, là, on n'y arrive pas parce que Mars n'arrive qu'à 0,22 et la Terre à 0,8. Je vous rappelle, il fallait 0,1 et 0,3. Mais si je change un tout petit peu la condition initiale, je change presque rien, à ce moment-là, je vais avoir la même solution pendant 100 millions d'années, mais après, ça va éventuellement changer, ça va être différent. Donc, on peut jouer à ce jeu-là, essayer d'avoir une autre solution quasiment identique à celle qu'on a maintenant, mais changer quelque chose et voir si ça va plus loin. En fait, j'ai changé dans toutes les manières, mais je n'ai pas réussi à faire cogner Mars et la Terre. Ça passe pas loin, ça passe là. Mars arrive à 0,25 d'excentricité, la Terre à 0,1, mais on n'a pas la collision quand même. Par contre, Mercure, vous voyez, Mercure monte assez haut ici. Eh bien, là, c'est pas suffisant pour cogner avec Vénus. Mais si on change un petit peu, la position de la Terre, eh bien, ça va changer le système. Et là, on a une trajectoire qui vient cogner Vénus en moins de 5 milliards d'années. Hein, disons qu'il faut bouger quelque chose pour que Mercure aille dans la bonne direction. Donc, on s'arrange pour bouger et que Mercure aille toujours dans la bonne direction pour aller cogner Vénus. Et ça, c'est possible d'aller faire cogner Mercure avec Vénus en moins de 5 milliards d'années. Bon, c'est une solution qui est possible, ce n'est pas une solution qui est probable, je vous rassure tout de suite. Hein, vous avez... Et puis, il faut quand même 3 milliards et demi d'années. Par contre, j'ai dit qu'il faut bouger les choses, il ne faut pas bouger beaucoup. Pour savoir de combien il faut bouger, en fait, j'ai bougé la solution de 15 mètres. J'ai bougé la solution de 15 mètres après 500 millions d'années. Mais, donc... On peut se demander à quoi ça correspond comme comme mouvement initial. Eh bien, pour raccorder une solution ici, après 500 millions d'années, avec une différence de 15 mètres, comme on a une erreur qui est multipliée par 10 tous les 10 millions d'années, eh bien, il suffit de faire 15 mètres multiplié par 10 puissance moins 50 comme différence initiale sur la position de la Terre. C'est-à-dire que c'est plus petit que toute distance concevable en physique. Ça veut dire qu'il suffit que, je regarde la Terre, en gros, hein, que je fasse ça, ça y est, ça suffit. J'ai fait plus que ce qui est nécessaire pour envoyer Mercure cogner avec Vénus. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même le faire dans la bonne direction. Hein, et qu'il y a, et il suffit que quelqu'un d'autre, voilà, j'ai vu quelqu'un bouger dans un autre sens, et voilà, ça fait que ça ne partira pas dans la même direction. Donc ça, c'est pour vous dire que le système solaire, il est instable. Hein, et en fait, quand on regarde un petit peu ce que ça donne, bon, ben voilà ce que ça donne pour l'ensemble des planètes. Hein, si on regarde pour les planètes intérieures, si on regarde l'orbite balayée, ce que balaye l'orbite à son maximum d'excentricité, eh bien pour Mars, on n'arrive pas à cogner avec la Terre, hein, donc il reste une petite zone ici. La Terre non plus, j'arrive pas à la faire cogner avec Vénus, mais Mercure arrive à cogner avec Vénus. Et ce qu'on voit surtout, c'est que le système paraît bien plein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de mettre quoi que ce soit d'autre à l'intérieur. Si je mettais quelque chose d'autre, eh bien il bougerait aussi et il viendrait sans doute cogner avec le reste. Donc ça donne des indications comme quoi finalement, ce qu'on ne cherchait pas a priori, ce chaos dans le système, ça aide finalement à comprendre comment le système s'est formé. Au début, on avait éventuellement plus de planètes qui viennent de l'accrétion de petits morceaux. On a plus de planètes et en fait, si on a plus de planètes, eh bien, le système est encore plus instable. On va en avoir qui vont bouger beaucoup, qui vont aller se cogner avec d'autres et ça va diminuer le nombre de planètes. Et tout ça, ça va diminuer. On va avoir à chaque fois qu'on a des collisions comme ça, le système devient plus stable. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que ces corps n'arrivent plus à se cogner entre eux. Et est-ce qu'on arrive à une situation donc, de ce que j'appelle marginale stabilité, stabilité marginale, où on a un mouvement instable, mais où les collisions ne peuvent se faire que dans des temps comparables à l'âge du système solaire. Alors, ça, c'est une chose. Donc, ça aide à comprendre ce problème de formation du système solaire. Mais c'est les géologues qui ne sont pas contents. Parce que toujours, on voulait quand même essayer de faire quelque chose pour retrouver à travers ces mouvements planétaires, à travers leur influence sur les climats du passé, essayer de retrouver une manière d'établir une échelle géologique. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer d'extraire. Vous voyez que dans ces mouvements, en fait, il y en a qui sont beaucoup plus réguliers que d'autres. Hein, les mouvements des grosses planètes, comme je vous l'ai dit, est très régulier. Et en fait, quand on regarde une planète intérieure, une planète comme la Terre, eh bien, ce mouvement, il est couplé à toutes les autres planètes. Donc, en fait, ce n'est pas juste la composante de la Terre qui bouge. En fait, quand on a des variations comme ça d'excentricité de la Terre, on a des termes. On a un couplage entre toutes les planètes. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'extraire dans cette solution qui n'est pas régulière la composante qui provient des planètes un peu plus régulières comme Jupiter et Saturne. Et alors, si on regarde dans la, disons que si on regarde un petit peu plus précisément ces variations d'excentricité ici des planètes, eh bien, il se trouve que dedans, il y a une composante qui provient d'un terme qui vient de Vénus et surtout de Jupiter et qui donne une composante qui vaut 400 000 ans, en fait, de période 400 000 ans. Je ne sais pas si on la voit bien ici. Ça doit correspondre à peu près ceci, ce battement-là, hein, cette grande, voilà, ceci qui fait comme ça. Et cette période de 400 000 ans, alors que les autres ne sont pas très stables, ben elles donnent quelque chose de très stable parce que ça vient de Jupiter. Donc, et si on utilise, en fait, ce qu'on fait, c'est on essaye de retrouver cette composante apparaît dans les enregistrements géologiques. Hein, et voilà, par exemple, bon, je ne vais pas détailler ceci, mais ce sont des sédiments géologiques qui sont assez anciens, qui datent de 200 millions d'années à 230 millions d'années, donc c'est 30 millions d'années de sédiments géologiques. En fait, ce sont des sédiments qui correspondent à un fond de lac qui était dans la région de New York, en fait. C'est pratique, le laboratoire est aussi dans la région de New York, quasiment ils n'ont pas eu à bouger pour forer. Et ce qui se passe, c'est que c'était le fond d'un lac, et suivant la profondeur du lac, eh bien, les sédiments ont un certain aspect ou un autre. Donc, ce qu'a fait le géologue, hein, Paul Olsen, il s'est dit, il a regardé, il a fait des forages, hein, ça correspond quand même à 7 km de forage dans ces sédiments, hein, donc une carotte sédimentaire de 7 km de long. En fait, c'est 7 forages d'un kilomètre de long. Et après, il regarde la nature de ces sédiments, et suivant la nature du sédiment, ils vont dire que le lac était profond ou peu profond. Ensuite, on se contente de donner cet indice de 1 à 5, de 0 à 5, et de regarder ces variations. Et ça, on a une très bonne corrélation entre ces variations et cette période de 400 000 ans. Donc ensuite, ça permet de repérer ces cycles et finalement la chronologie ici de cette carotte qui est relative, elle n'est pas absolue, elle est établie, basée sur ce cycle de 400 000 ans. Qui provient de Jupiter et de Vénus. Ici. Donc vous voyez, c'est un exemple de chronologie ici qui peut se faire parce qu'on s'établit sur une partie, tout est chaotique, mais celui-là, disons, ne se manifeste pas en un temps aussi rapide que les termes principaux de la solution. Alors du coup, on a un autre... on a à ce moment-là, on peut penser même à ce moment-là de manière, on peut penser encore plus loin. On se dit, après tout, si on a finalement cette possibilité, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les informations données par la géologie, si c'est apparent dans les données géologiques, pour essayer de contraindre la solution astronomique. Et ça, eh bien, il faut regarder un peu d'où viennent ces phénomènes chaotiques dans les solutions des planètes. Et je vous ai dit, ça vient de résonance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que ces résonances vont faire que, de temps en temps, je vous donne une combinaison, je vais vous expliquer un petit peu une de ces combinaisons résonantes. Alors, cette combinaison résonante, c'est peu importe finalement, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que ça vient de l'excentricité de Mars et de la Terre, ça vient de l'inclinaison de Mars et de la Terre. Donc, l'excentricité, la forme de l'orbite, l'inclinaison, c'est le plan de l'orbite. Et on a une combinaison deux fois cette différence de fréquence de périhélie, moins cette différence ceci, est pratiquement nulle. Alors, quand c'est nul, ça veut dire qu'on a notre pendule qui est comme ça. Et puis ici, vous avez de temps en temps des petites oscillations. Ici, c'est de 0 à... En fait, c'est un angle. Hein. Là, c'est en millions... C'est presque 200 millions d'années, ça. Donc ça voudra dire qu'on a des petites oscillations de ce pendule. Et quand ça se met à avancer comme ça, ça veut dire qu'on a fait un tour. Donc vous voyez, on a un mouvement où de temps en temps, on fait une oscillation et puis on fait un tour. Et puis en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est quand on va passer de l'un à l'autre. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'à travers la géologie, on ne va pas pouvoir essayer de retrouver ces transitions? Alors ça, je vous préviens tout de suite, hein, pour le moment, c'est presque de la science-fiction. Hein. On commence juste à y penser. Mais je vais vous montrer un petit peu comment on peut espérer voir quelque chose à un moment donné. Donc, eh bien, si je regarde... Alors, bien sûr, je ne peux pas trouver, c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire que je ne peux pas du tout trouver ces variations-là dans les solutions géologiques, je ne vais pas les trouver. Mais voilà les variations d'obliquité, donc ça, c'est cette variation que je vous montrais tout à l'heure, la variation d'obliquité de la Terre, là, c'est sur 20 millions d'années. Et sur 20 millions d'années, vous voyez qu'on a des oscillations assez grandes, hein, rapides, donc c'est de l'ordre de 40 000 ans, c'est des périodes de 40 000 ans. Mais en fait, on a deux termes, deux périodes qui donnent essentiellement 40 000 ans. C'est quelque chose qui est en gros la période de précession de la Terre plus quelque chose qui est dû à la Terre, à la variation du plan de l'orbite de la Terre, précession de l'axe de la Terre plus quelque chose qui est dû à la variation du plan de l'orbite de Mars. Et ça, ça donne ces périodes de 40 000 ans. Mais on a ce qu'on appelle un battement. Quand on a deux fréquences qui sont très proches, comme ça, deux termes de fréquences très proches, on va avoir des amplitudes, vous voyez, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, comme ça. Et la période maintenant de cette courbe bleue, elle, c'est la différence de ces deux-là, et ça ne fait plus intervenir que les deux termes entre la Terre et Mars, avec une période de 1,2 million d'années, donc une très longue période. Donc même si j'ai des données qui sont très peu précises, si j'ai des données pendant un temps très long, eh bien ce que je me dis, peut-être que je vais pouvoir trouver ces variations. Et si je fais la même chose pour une autre quantité, disons, qui est proche de l'insolation, eh bien ce qu'on appelle la précession climatique, c'est pareil, j'ai des variations, alors c'est celle-là en fait. Vous voyez ces variations ici, elles ne sont pas très claires, mais bon, c'est moins clair ici. Et ces variations-là, donc c'est une quantité aussi qui est censée être présente dans les enregistrements paléoclimatiques. Ça dépend un peu des latitudes, ça dépend un peu du type d'enregistrement. Et celle-là, elle a actuellement une période de 2,4 millions d'années. Justement, le problème actuel, c'est que celle-là, c'est deux fois celle-là. Hein, c'est ça qui dit qu'on est en résonance. Alors l'idée, c'est que si on arrivait à avoir un changement dans ce rapport, eh bien, on aurait, disons que les changements que je vous montre ici entraînent des changements dans ce rapport. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, mettons, 1,2 million et 2,4 millions, au lieu d'être celle-là deux fois celle-là, on aurait des moments où ils seraient identiques. Donc ils vaudraient ni 1,2 million d'années, ni 2,4. Mais donc c'est des changements sur des grosses choses. Donc on peut espérer les voir dans des sédiments. Et en fait, je vais vous montrer, voilà, ça c'est vraiment un enregistrement géologique. Hein, c'est à partir d'une carotte sédimentaire qui est faite en une carotte marine. Donc c'est sur une carotte de plusieurs kilomètres de long aussi, mais là c'est en millions d'années, de 12 à 28. Et ce qui apparaît ici, là, à 40, hein, c'est la période. En fait, eh bien, c'est la trace, c'est très exactement la trace de cette modulation. Ce qu'on voit ici, disons que c'est rouge quand l'amplitude est plus grande, c'est bleu quand c'est moins grand. Donc ça vous montre que c'est présent dans des signaux géologiques qu'on vient juste de récupérer. Et ça, ce qui est en dessous, en fait, c'est tout simplement le même processus qui a été fait là, le même traitement appliqué à ces données ici, qui sont les données calculées. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment très similaire. Ça vous dit qu'il existe des enregistrements géologiques où on arrive finalement à retrouver cette période. Ce qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore très bien celle-là, mais bon, ça semble... Peut-être que si je reviens parler dans 20 ans, ce sera fait. Hein, Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Si on arrivait à voir ça, eh bien, même avec des données peu précises, si on avait finalement des transitions, une transition comme ça, un changement de résonance dans des sédiments de 200 millions d'années, eh bien, si je repasse ça en arrière, avec le fait que l'erreur est multipliée par 10 tous les 10 millions d'années, eh bien, ça me donne une contrainte de 10 puissance moins 20 sur le modèle gravitationnel. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus, une contrainte beaucoup plus forte que tout ce qui peut exister comme test. Hein. C'est même trop fort comme contrainte. C'est un peu comme si vous avez... Imaginez que vous ayez une forêt, puis vous jouez au billard dans cette forêt. Alors, le système est instable. Hein. C'est un système... à chaque fois... Comme vous avez des erreurs qui sont multipliées par deux à chaque collision sur un arbre, donc très vite, un tout petit changement de condition initiale donne quelque chose un très grand changement au bout de 5 ans de rebond. Et là, c'est un petit peu comme si je vous disais, au 200e rebond, eh bien, je sais qu'on est passé sur cet arbre. Mais il reste encore énormément de chemin. Il y a encore plein de chemins, il y a tout un tas de chemins possibles qui peuvent arriver aussi au 200e rebond sur l'arbre. C'est-à-dire que ça marche si on a par ailleurs contraint énormément le modèle et si on a... Mais disons que tout modèle qui ne passerait pas par ce point-là, on pourrait considérer que ce ne serait pas un bon modèle. Et alors, pour terminer, je vais vous parler très brièvement du futur. Là, on était déjà dans le futur, mais je vais vous parler du futur des paléoclimats. Futur, ça s'écrit comme ça ou ça prend un E à la fin? Parce qu'à force d'écrire en anglais, on ne sait plus. Et alors, le futur des paléoclimats, disons que j'étais déjà un peu dans le futur tout à l'heure, mais là, je vais vous parler de futur encore plus lointain. Alors, je vais encore considérer, je vous ai dit, l'axe de la Terre. Bon, il y a ce mouvement de précession de l'axe de la Terre, et puis qui serait à obliquité constante, hein, si on n'avait pas à vitesse constante, si on n'avait pas les planètes, si on avait juste le Soleil et la Lune. Puis je vous disais qu'avec l'effet des planètes, ça fait bouger le plan de l'orbite de la Terre, et ça fait osciller un petit peu l'axe de la Terre. Mais cette oscillation, elle est petite. Pourquoi elle est petite? Eh bien, elle est petite parce que la période de précession de l'axe de la Terre, c'est 26 000 ans. C'est loin des périodes d'excitation dues aux planètes, qui sont plutôt de l'ordre de 40 000 ans à quelques millions d'années. Mais ce qui se passe, c'est que si on laisse le temps passer, si on attend suffisamment longtemps, en fait, la Lune s'éloigne, hein, dû à l'effet de marée, l'effet de marée entre la Terre et la Lune a un autre effet, c'est-à-dire que la Lune déforme un peu la Terre n'est pas complètement élastique, il y a des dissipations qui se font là-dedans, donc la Terre ralentit, la Lune s'éloigne. Et quand la Terre ralentit et que la Lune s'éloigne, donc quand le temps passe, la Terre est ici, ce qui est marqué ici, ces deux traits, ce sont les variations ici de l'obliquité de l'axe de la Terre entre 23 degrés, d'un degré et demi autour de 23 degrés. Et en fait, quand la Lune s'éloigne et que la Terre ralentit, eh bien cette vitesse de précession va diminuer. Donc la période va augmenter. Et jusqu'à un moment où finalement elle sera comparable aux périodes d'excitation dues aux planètes. Et à ce moment-là, on n'aura pas une petite oscillation d'un degré et demi d'amplitude, mais on aura un mouvement chaotique de très forte amplitude où l'axe de la Terre pourra aller de 0 à 90 degrés. Hein, donc, au lieu d'avoir juste ces toutes petites oscillations, on aura un axe de la Terre qui fera un petit peu n'importe quoi, entre 90 degrés et 0. Hein, et en fait, c'est aussi ce qui se passerait si tout d'un coup, si maintenant je supprimais la Lune, au lieu d'être ici, je serais ici, j'aurais ces variations chaotiques de l'axe de la Terre entre 0 et 90 degrés. Alors, je vous ai montré un peu que la petite variation de 1,5 degré, ça donne déjà les périodes glaciaires. Donc là, vous pouvez essayer d'imaginer un petit peu ce que donneraient ces variations où l'axe de la Terre serait des fois à 90 degrés. Donc pointé vers le soleil, et puis donc en fait pendant l'été il fait très chaud sur tout l'hémisphère nord, et puis pendant l'hiver il fera très froid sur tout l'hémisphère nord, parce que la Terre elle tournerait comme ça, hein, l'axe de la Terre bougerait pas. Donc voilà, et donc pour conclure, hein, voilà une autre simulation numérique sur ordinateur. Vous avez la Lune donc qui s'en va avec sa petite valise, hein. Tout le monde sait que la Lune a une petite valise. Et qu'est-ce qui se passe quand la Lune s'en va avec sa petite valise comme ça? Donc au bout de 1,5 milliard d'années, eh bien, en fait, la Terre est très contente. Hein, elle se met à danser dans tous les sens de manière chaotique. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.
Merci beaucoup pour votre exposé. Pourquoi Neptune et Pluton ne se cognent-elles pas?
Pourquoi Neptune et Pluton ne se cognent-elles pas? Alors ça, c'est un phénomène aussi de résonance. Oui, la question est... Donc, pourquoi, le problème, c'est que les orbites de Neptune et de Pluton se croisent. Mais, en fait, ces deux planètes sont en résonance. Elles sont en résonance et ça fait que quand Neptune arrive... Elles sont en résonance, mais en résonance orbitale. C'est-à-dire qu'il y en a une qui fait deux tours pendant que l'autre en fait trois. Et ça fait que quand Neptune arrive à l'endroit où les orbites se croisent, Pluton n'y est jamais. Et réciproquement.
Ah, j'ai une question au fond. Un monsieur qui lève la main, je vois derrière les caméras. Attendez, le micro, et voilà, restez debout pour qu'on vous voit quand vous parlez.
Merci.
Allez-y.
Oui, si vous regardez les éphémérides en ce moment, vous voyez que le Soleil se lève de plus en plus tard jusqu'au 4 janvier, et alors, de quelques minutes, et tandis que le jour augmente un petit peu, le soir, de quelques minutes. Et comment on peut expliquer cette différence ?
Comment on peut expliquer que...
Et justement, que le
jour... Que le jour change.
Oui, c'est... Même s'il augmente, il y a une translation.
Il faut regarder, mais il faut... Bon, ça va dépendre de l'orientation de l'axe de la Terre. Hein, c'est le problème des saisons. Hein, ça va dépendre de l'orientation de l'axe de la Terre. Mais alors là, il faut toujours regarder dans quel sens ça marche. Et j'avoue que moi, je n'ai jamais réussi à savoir quelle était ma droite et ma gauche. Donc, mais bon, c'est... Il faut regarder les intersections avec la sphère... Je suis très, très peu qualifié pour répondre à ce genre de questions directes.
Une autre... Ah, monsieur, qui va en poser une là.
Je voudrais vous demander comment vous définiriez ce que vous appelez un mouvement chaotique et ce que ça veut dire imprévisible, indéterminé.
Alors, le mouvement chaotique, la première chose qu'il faut... Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le mouvement est parfaitement ce qu'on appelle déterministe. C'est-à-dire que ce mouvement, il est quand même donné par une équation différentielle, donc il est donné par une équation bien précise. On reste, et c'est pas, la première chose, ce n'est pas parce que le mouvement fait intervenir beaucoup de planètes qu'il est chaotique. L'exemple que je vous ai donné, l'exemple typique de mouvement chaotique le plus simple, c'est celui que je vous ai donné tout à l'heure, qui est ce pendule perturbé. Donc si je prends juste un pendule perturbé, j'ai un système qui est très simple, parce que ce système, il a un degré de liberté qui est l'angle entre le pendule et puis la verticale. Et puis, il faut rajouter une perturbation. S'il n'y avait qu'un seul degré de liberté, ce serait régulier. Ce serait toujours, la plupart des systèmes à un degré de liberté sont ce qu'on appelle intégrables, ils sont réguliers. Mais c'est au voisinage, disons, de cette solution instable, là-haut, qu'une petite perturbation va donner une instabilité qu'on appelle une instabilité exponentielle. Donc, alors, la traduction de cette instabilité, ça va donner ce qu'on appelle la divergence exponentielle d'orbites voisines. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe à peu près dans tous ces mouvements chaotiques. C'est-à-dire que si on a deux conditions qui sont au début très proches, si je prends un système régulier et que j'ai une petite différence de condition initiale, quand je le laisse évoluer, je vais avoir une erreur qui va augmenter. Mais la manière dont augmente cette erreur, elle est gentille. Disons, quand on se dit, c'est un peu ce que pensait par exemple Laplace au 18e, il se disait, bon, ben, il suffit maintenant, j'améliore mes données initiales, j'améliore ma connaissance du système, si j'améliore d'un facteur 10, la précision de mes données initiales, eh bien, j'améliore d'un facteur 10 la durée, en gros, sur laquelle je peux calculer, ou bien d'un facteur 3, c'est pas grave, mais disons que d'un petit peu dans les mêmes proportions. Donc, je vais pouvoir aller plus loin. Alors que là, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a cette instabilité exponentielle, on améliore d'un facteur 10 et on va seulement un cran plus loin. On ne multiplie pas la durée sur laquelle on fait la prédiction. Alors ça, c'est un premier aspect de ces mouvements chaotiques. Un deuxième aspect, là où on a du chaos beaucoup plus fort, c'est quand il y a des phénomènes du genre de celui dont je viens de parler avec l'axe de la Terre. Parce que quand on a ce genre de phénomène, on a... on a plein de résonances, les unes à côté des autres. Et ces résonances se chevauchent. Ce qui se passe, c'est que dès que la période de rotation, la période de précession, par exemple de la Terre, arrive à la première résonance avec le mouvement du plan de l'orbite de la Terre, eh bien, on a ce mouvement donc, qui est instable, mais qui, à ce moment-là, peut raccrocher au suivant et comme ça, balayer toutes ces valeurs entre 0 et 90 degrés. C'est parce qu'on a superposition de plein de résonances. Et donc, ça donne des mouvements là, de beaucoup plus grande amplitude. C'est un petit peu comme si mon excentricité d'une planète pouvait faire vraiment n'importe quoi. Donc là, ce qui n'est pas le cas, les chaos que je vous ai montrés pour les excentricités, c'est des choses plus modérées.
Comment expliquez-vous l'inversion du champ magnétique ?
Alors, l'inversion du champ magnétique, ça c'est différent. Hein. L'inversion du champ magnétique, ça concerne l'intérieur de la Terre. Hein. C'est pas parce que ça concerne le noyau liquide de la Terre. C'est pas quelque chose d'ailleurs qui est bien compris. Moi, je suis pas non plus spécialiste de ces questions de champ magnétique terrestre. Mais quand ici je parle de variation de l'axe de la Terre, c'est vraiment l'axe de rotation de la Terre qui bouge. Quand le champ magnétique se renverse, l'axe de la Terre ne bouge pas. C'est juste le mouvement interne. Il y a un renversement, enfin je ne sais même pas, il y a un renversement. Il n'y a pas des masses qui bougent. Je crois que ça vient de la turbulence dans le noyau, mais je n'ai pas exactement comment c'est. On n'a pas encore une idée très précise. L'intérêt de ces renversements, c'est qu'ils ont lieu globalement. Bien sûr, c'est le même pour toute la surface de la Terre. Donc, si on repère bien, on peut les repérer avec des particules qui s'orientent dans une certaine manière dans les carottes. On retrouve un petit peu quelle était donc l'orientation de ce champ magnétique. Ça permet, si on a des matériaux qui sont magnétiques ou qui ont une certaine susceptibilité magnétique, ça permet comme ça, de repérer une carotte prise à un endroit donné et de la raccorder à une autre qui est prise à un endroit totalement différent du globe. C'est ça un peu l'intérêt de ces renversements. Mais il n'y a pas d'influence entre ces variations d'axe de la Terre et ces renversements.
Jacques Lascar, je vous remercie.
Je voudrais faire quand même un commentaire juste sur ces questions-là. C'est que ça montre en particulier la non-généricité de la situation de la Terre. Parce que si on n'avait pas la Lune, on serait dans cette situation très chaotique où l'axe de la Terre irait de 0 à 90 degrés, on n'aurait pas du tout de stabilité climatique, on aurait les premiers exemples, expériences montrent qu'il y aurait un climat en gros épouvantable à la surface de la Terre. Et en fait, pourquoi on a cette grosse Lune ? Cette grosse Lune, il faut un scénario non générique pour l'expliquer. On a besoin d'un scénario accidentel, du genre une grosse collision qui vient former, quelque chose de la taille de Mars, qui vient former un corps qui va se réaccréter autour de la Terre. Donc en fait, la manière de former cette Terre, elle est pas générique. C'est pas quelque chose qui se fait systématiquement. Si on formait un système du même genre que le système solaire, il y aurait de grandes chances que la situation de la planète qui est à la même position ne serait pas du tout celle de la Terre et ne serait pas du tout dans une situation aussi stable. Donc ça veut dire que s'il y a des planètes un peu comme la Terre, elles sont loin. Et donc, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir en trouver une autre facilement une fois qu'on aura gâché celle-là. Voilà, merci.
Merci beaucoup.